Merci Camille, tu as donc pris cette poussée patriotique et hop, tu as fait s'écraser directement l'avion dans les profondeurs de la déprime. Pour être honnête, le message anti-guerre de Some Nights du groupe Fun est beaucoup plus clair dans le clip que dans les paroles un poil cafouilleuses. Mais bon, un peu d'acapella épique, ça devrait vous gonfler l'âme, comme dirait notre ami Kundera. Autre guerre, autre temps, autre style. Mais l'ennemi reste Bosch, même si en 1870, les Allemands étaient encore prussiens. Après nous avoir menacés avec du Kant, notre invitée historienne Marie a choisi la nouvelle « Boule de suif » de Maupassant pour faire briller ses talents de lectrice. Deuxième revenant de notre épisode sur l'épouvante, bon retour parmi nous Guy. Et en plus, c'est Link qui pite, donc le texte fera sa propre introduction. Moins de boulot pour moi, ils sont vachement utiles ces invités. Bêtise à part, l'antenne est à toi, Marie.
Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude, et tombant de fatigue, sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques, les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leur chef, ancien commerçant, en drap ou en graines, ex-marchand, de suif ou de savon, guerriers de circonstances, nommés officiers, pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne et prétendaient soutenir seuls la France agonisante sur leurs épaules de fanfarons. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale qui, depuis 2 mois, faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, était rentrée dans ses foyers. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Ponteau de Mer par Saint-Sever et Bourrachard. Et, marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre, et désastreusement battu, malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied entre 2 officiers d'ordonnance. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi.
Merci Marie. Et c'était Russians de Sting que tu as choisi toi-même en virgule parce que, et je cite, Russians, c'est jamais que Prussians amputé de sa première lettre, certes. Enfin, quitte à brasser les guerres, la guerre froide a aussi droit de citation. Ça ferait un granité de guerre. Non, imaginez plutôt que je dis quelque chose d'intelligent et de subtil sur le contexte international actuel.
Adieu, vieille Europe, que le diable t'emporte. Adieu, vieux pays.
Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Pour ceux qui ne se sont jamais baladés sur la mezzanine, là où il y a les canapés super confortables en cuir noir, il y a un mémorial avec le nom de soldats morts pour la France. Je vais vous lire les noms de ceux de la promotion de 14 qui ont été envoyés à la guerre juste après. Antérion, Élie, Bâtard, François, Bernardon, Philippe, Espinasse, Barthélémy, Extrate, Antoine, Georges, Auguste, Guillet, Joseph, Rabot, Étienne et Tubet, Félix. Toujours éducation civique, mais un petit peu moins en rapport avec la guerre. Imaginons, vous avez une très mauvaise journée, vous avez été convoqué dans le bureau de Monsieur Bordas.
Pauvre de nous.
Ouais, pauvre de vous. Si jamais vous êtes bien déprimé, jetez un regard à gauche sur le mur. Il y a un très vieux panneau. Sur lequel il est marqué « Aux élèves des écoles, il est défendu, petit 1, de cracher à terre, petit 2, de mouiller ses doigts dans sa bouche pour tourner les pages des livres et des cahiers, petit 3, d'introduire dans son oreille le bout d'un porte-plume ou d'un crayon, petit 4, d'essuyer les ardoises en crachant dessus ou en y portant directement la langue, petit 5, de tenir dans sa bouche les porte-plumes, les crayons, les pièces de monnaie, etc. Et pour finir, donc vous aviez déjà eu des citations de Jean-Claude Van Damme. Je pense qu'il était grand temps de donner quelques Chuck Norris facts à la radio. Donc, c'est pas du meilleur goût. Chuck Norris ne s'est jamais rendu à l'école. Chuck Norris ne se rend jamais. Chuck Norris mange ses oranges tout ronds. Chuck Norris ne fait pas de quartier. Une petite blague de geek. Chuck Norris a été conçu en mode sans échec. Et la dernière, désolé aux vétérans. La guerre du Golfe a commencé quand Chuck Norris a raté le 18e trou. Chers auditeurs, si vous commencez à penser qu'à notre offensive antimilitariste manque son texte le plus célèbre et le plus évident, vous avez raison. Voyage au bout de la nuit, premier roman de Louis-Ferdinand Céline, fait l'effet d'une bombe à sa parution en 1932. Dans une langue parlée et expressive, matinée d'argot, il exprime l'absurdité de la guerre révélée par sa propre participation à la Der des Der. Hostile à toute forme d'héroïsme, le protagoniste médecin, Ferdinand Bardamu, nous fait l'apologie de la lâcheté. Les opinions politiques de Céline sont plus que discutables, mais on ne peut nier que sa plume a du chien. Camille, tu es promue capitaine pour le temps de la discussion. Use sagement de ton pouvoir. Je n'ai pas complètement exclu votre exécution, bande de révolutionnaires.
Notons qu'au début de la monstrueuse entreprise, c'est-à-dire au mois d'août, jusqu'en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de route, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés. Mais à partir d'octobre, ce fut bien fini, ces petites accalmies. La grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d'obus et de balles. Bientôt, on serait en plein orage, et ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi, et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. C'est difficile d'arriver à l'essentiel. Même en ce qui concerne la guerre, la fantaisie résiste longtemps. On dénichait dans la nuit, ça et là, des quarts d'heure, qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables où tout était bénin. Où rien au fond ne tirait à conséquence, où s'accomplissaient tant d'autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix. Mais bientôt, les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d'avant-garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en long cortège boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d'avoine, de riz et de gendarmes, et de pinards aussi. À pied, les traînards derrière la forge, et le pain, et des prisonniers à nous, dès leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l'étrier des gendarmes, certains à fusiller deux mains, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi, ceux-là, leur ration de ce thon si difficile à digérer, ils n'en auraient pas le temps. En attendant que le convoi reparte sur le rebord de la route, et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux, qu'on disait être un espion et qui n'en savait rien. Nous non plus. Alors après cette description assez vivante de Céline, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces différentes peintures de la guerre ou de la ville en état de guerre qu'on a vu dans ces différents livres, et comment est-ce qu'on peut représenter la guerre pour la présenter comme dégoûtante et rebutante? Comment ne pas la glorifier quand on la dépeint dans un roman? Caroline.
Donc moi, ce qui m'a marqué en comparant Boule de Suif et État de siège, c'est vraiment l'accent qui est mis sur l'inaction, l'attente, le fait qu'il y a rien qui se passe. Enfin, on voit juste les débris de la guerre, les trucs calcinés, les gens qui ont peur. Et comme il n'y a pas d'action, comme il n'y a pas d'armée en marche, des attaques, tout ça, ça donne vraiment cette impression que c'est quelque chose qui est subi. Et du coup, c'est pas glorieux du tout si on peut pas agir.
Même dans Wittig, il y a un côté aussi pas glorieux parce que, en fait, dans les premiers chapitres, elle essaie de résoudre le conflit de façon, enfin, par la parole, justement. Et c'est que, comme sa parole ne trouve aucun crédit parce qu'à chaque fois, bah, on leur renvoie son statut de femme, que du coup, elle est obligée de prendre l'arme des hommes, c'est-à-dire l'arme en tant que telle, pour justement répondre sur le terrain masculin, on va dire. Donc, il y a aussi le fait que c'est pas glorieux parce qu'on ne la considère pas comme un être pensant et qui peut avoir sa propre volonté, mais qu'il faut devenir un peu une sorte de bête sanguinaire pour se faire comprendre.
Et puis la peinture des corps mutilés qu'il y a de ces femmes qui sont à moitié égorgées, c'est pas quelque chose qui. C'est plutôt ce qui se passe une fois qu'on a quitté le champ de bataille et quand on ramasse les corps. Et...
J'avais lu que Wittig avait fait une action aux hommes féministes où ils avaient déposé une gerbe de fleurs à la femme du soldat inconnu.
Mmh, oui. Tout le travail de Wittig, c'est un travail sur les pronoms, en fait, parce que pour elle, le langage français est genré, c'est-à-dire que le masculin est neutre, et donc, par exemple, quand on dit « il pleut », on dit « il pleut ». Et qu'un jeu qui parlerait au masculin, ce sera toujours un jeu plus neutre qu'un jeu qui parle au féminin. La guerre, pour elle, c'est une guerre vraiment dans le langage, pour essayer dans ce langage qui pourrait être justement l'outil de la réconciliation, où en fait c'est aussi un outil de domination masculine. Et donc c'est là-dedans qu'elle essaie de créer justement cette espèce de paradis où les pronoms ne sont pas des armes, quoi.
Mais regarde, elle, la guerre, elle la mène, alors que dans les autres textes qu'on a lus, même si on a Céline et Saint-Exupéry, c'est quand même deux textes qui sont des récits de gens qui ont fait la guerre, qui ont combattu. Mais on a un peu l'impression qu'on est dans les coulisses et qu'on assiste à... C'est des gens qui sont passifs et qui sont pas en train de... qui sont pas du tout des résistants, finalement. Donc on a vraiment l'impression que la guerre a perdu son contenu et tout son sens.
Et déjà, c'est vrai qu'assez souvent, on n'a pas vraiment de... Enfin, dans les textes qu'on a lus, pas de description de bataille en elle-même, puisque au fond, c'est pas tellement intéressant. Et d'abord, en particulier, quand Céline ou Saint-Exupéry, des gens qui ont fait la guerre... On n'a vraiment pas le temps de penser à écrire ou même simplement de penser quand on est dans le cœur de la bataille. Et plus comme s'il fallait parler de l'avant, de l'après. Donc l'avant quand on attend, quand c'est absolument interminable et atroce. Je pense, j'avais pensé par exemple prendre un extrait du Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Mais justement, c'est toute l'histoire du roman, c'est qu'il n'y a pas de guerre. On attend cette foutue fichue guerre qui ne vient absolument jamais.
Qui n'aura pas lieu.
et qui a lieu à la fin. Qui est provoqué. Alors c'est ça, c'est horrible. On en vient à provoquer la guerre tellement on l'attend et on la désire presque.
J'aime bien le dialogue du coup entre nous, Cassandre et Andromaque, c'est pourquoi est-ce que la guerre aurait lieu ? En soi, elle a pas de raison d'avoir lieu, comme ils disent, enfin, Paris, Célène, on s'en fiche, tout ça, c'est juste des excuses. Et d'ailleurs, dans la pièce, elle a presque pas lieu, à part cette dernière scène où...
Le poète troyen qui est tué par un troyen et qui accuse les Grecs de l'avoir tué. Donc c'est ça aussi, c'est de provoquer la guerre tellement finalement elle est en quelque sorte attendue, quoi.
Mais dès que t'as une histoire qui est racontée du point de vue du personnage, ça va pas nécessairement arriver. Enfin, ça aurait pu être différent pour eux, sauf que ça l'est pas.
Même quand le personnage est dedans, par exemple dans le livre de Stendhal où le personnage est au milieu de la guerre et complètement perdu, finalement la guerre c'est toujours quelque chose qui est vu après, en quelque sorte. Enfin, elle est attendue avant, elle est constatée après, mais c'est vrai qu'au moment même, on ne sait pas vraiment dire qu'elle a lieu, tellement c'est un chaos, quoi.
On a Fabrice qui traverse Waterloo et qui ne comprend pas qu'il a affaire à l'événement majeur de l'épopée napoléonienne, et qui finalement, dans toute la description, se situe autour du champ de bataille. Donc on est avec les cantinières, on est en périphérie de tout ce qui se passe. À un moment, on aperçoit Napoléon au loin, on voit des généraux qui fuient, mais on voit jamais le cœur de la bataille. Et je trouve que dans tous les textes qu'on a, c'est un peu ce qui se passe. On a Céline qui nous raconte la vie du soldat qui ne veut pas s'impliquer, la vie dans les tranchées, cette espèce de désengagement personnel. On a Saint-Exupéry qui nous dit que le sacrifice est vain. On a la débâcle prussienne. On a cette espèce de discussion de deux témoins qui sont Cassandre et Andromaque avant la guerre. Et Gauthier Solo, justement, ce qui est assez intéressant, tout l'incipit se déroule autour de cet œil. Donc cet œil qu'il a collé à la vitre. C'est par ce tout petit trou de serrure presque qu'on découvre le paysage qui est complètement détruit. Et là encore, on est au cœur de l'action. Et en même temps, il arrive après que la destruction ait eu lieu. Il est extérieur à la scène. Donc c'est cette description forcément qui vient de l'extérieur. Ça peut pas être un combattant ou quelqu'un qui est impliqué dans le combat.
Puisqu'on n'a pas encore parlé d'Orwell, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, la guerre est tellement extérieure à la vie des gens qu'en fait, elle pourrait très bien être quelque chose qui a été inventé par le gouvernement. Cette guerre, elle pourrait très bien ne pas avoir lieu du tout, effectivement.
Ouais, j'aime bien cette idée de guerre comme brèche, comme non-événement, quelque chose de complètement absurde. Et peut-être que c'est pour ça, au fond, qu'on écrit dessus, qu'on l'attend, qu'on fait le compte-rendu une fois qu'elle est passée, qu'on essaie justement d'en faire un événement et éventuellement de le faire en la glorifiant. Je pense qu'on deviendrait fou simplement si on se mettait à considérer la guerre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un non-événement, et considérer qu'on ne l'a pas vraiment vécu.
Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnons.
Le sale gosse de la chanson française pour qui rien n'était sacré et surtout pas l'hymne national. À l'instant sur transistor, aux armes, etc. Où Gainsbourg démonte la Marseillaise avec flegme et rythme de reggae. Et dans ce nuage de fumée acre, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Mais si ces lectures aromatisées à la colombe vous ont semblé manquer de mordant, ou bien vous ont infecté de stress post-traumatique, vous avez heureusement tout le loisir de fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Émission et playlist composée de concerts, invités incluses, dans une belle démonstration d'esprit de corps. Voilà, donc esprit, corps, vêtements, t-shirt. Donc, sélection du jour de Robin. un t-shirt d'un beau vert pomme qui est un hommage à la légende de Zelda. Donc on voit le bouclier avec la triforce et les espèces d'ailes, le cœur au-dessus qui représente les vies, des joyaux, une potion.
Non, c'est une bombe.
Une bombe, pardon, excusez-moi. Je n'ai jamais joué à Zelda. Et donc la devise qui est marquée comme sur un blason, It's dangerous to go alone. C'est dangereux d'y aller seul. À la guerre, pour libérer Zelda, enfin quelque chose comme ça. Donc Robin, un grand merci pour ta pugnacité à l'enregistrement. Je travaille mon vocabulaire pour ne pas trop me ridiculiser à Ulm, vous avez remarqué. Et merci également à Marie pour ses lumières d'alien, d'historienne. Le thème de la prochaine émission en podcast sera la déprime, pour lutter contre la vague de bourgeons, fleurettes et rayons de soleil qui envahit le pays. Mais entre-temps viendra l'événement de l'année. N'oubliez pas de nous écouter le 12 avril, en fin d'après-midi, soit en direct sur le site de Transistor, soit en chair et en os dans le bunker de l'ENS d'Ulm. Vous verrez, la guerre va être super sexy et super décalée. Je vous dis pas les virgules qu'on a sélectionnées quand je pense aux gens importants qui vont venir. Voilà. Oui, parce qu'il y aura pas que nous, mais des conférences, des émissions politiques et musicales et culturelles, et aussi moi pour la météo de la matinale, ça va pas être triste. Enfin bref, fini le pacifisme, et pour faire la liaison, une zone grise entre militarisme et antimilitarisme, l'engagement dans la résistance. En excipit, ce cœur qui a hissé la guerre de Robert Desnos, auquel Willem prête sa voix. Et avant, teaser sonore de la JDR et flashback pour ceux qui ont participé à la soirée Art Total, la playlist numéro 2 d'Ondes Sonores, reproduite avec la gracieuse surmission de Lola, spécial Général de Gaulle. Les transhistoriens parlent aux transhistoriens.
Écoutez bien, écoutez bien. Les Français parlent aux Français. L'heure de l'action a sonné. Les Français parlent aux Français. Les Français parlent aux Français. Ici, Londres. L'heure de l'action a sonné.
Ce cœur qui a hissé la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises, et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.